Merci Stéphanie Vanessa de m'avoir invitée. Je suis très honorée et c'est toujours un grand plaisir.
Est-ce que tu pourras parler un peu?
Oui. C'est toujours un grand plaisir pour moi de parler de l'Inde, un pays où j'ai vécu pendant presque la moitié de ma vie. Alors je vais peut-être essayer de vous faire partager cet amour que j'ai pour l'Inde. Alors, moi, c'est mon premier voyage en Inde, c'était en 1980, j'avais 26 ans. Je suis partie avec mon sac à dos, je suis partie, arrivée à Delhi, et je suis partie à travers le Cachemire, et puis j'ai pris un bus pour le Ladakh qui se trouve à l'extrême nord de l'Inde, tout près de l'Himalaya du Tibet. Et c'était un voyage en bus de deux longues journées. En fait, c'était toute une aventure, ce voyage. On était dans des bus sur des bancs très étroits, très serrés, parce que les Indiens sont petits, donc les bus sont adaptés à leur taille, donc on a juste de quoi mettre les genoux. Et on ne peut pas trop étendre les jambes. Et voilà, si on a la chance d'être près de la fenêtre, on peut admirer les paysages grandioses sur le chemin. Et donc, mon bus sur les routes caillouteuses. Et puis, à un moment, même sur ce chemin, le bus s'est arrêté. On a croisé un gros camion. Tout le monde a dû descendre. Et là, on s'est aperçu, à notre grande stupéfaction, que en fait, le bus il avait une roue dans le vide. Au bord du précipice du grand ravin dont on ne voyait pas le fond. Ils ont remis le bus sur la route et puis on est reparti. Personne ne s'est affolé. Tout allait bien. Et voilà, on est arrivé à Leh, au Ladakh. Alors le Ladakh, ce sont des paysages grandioses, de vastes plateaux arides de toutes les couleurs, toutes les couleurs d'automne, de ocre, rouge, entourés de montagnes enneigées, et puis avec des monastères bouddhistes qui se nichent au flanc des montagnes, des monastères très très anciens qui abritent des merveilles, et puis des vallées avec des rivières bleues turquoises qui reflètent le ciel qui est toujours bleu, et autour de ces vallées, des petits oasis où vivent les Ladakhis et des Tibétains. Il y a de nombreux Tibétains. Et moi, ce qui m'a frappé, ce que je revois encore, c'est la chaleur de ces gens, c'est leur accueil chaleureux. Je revois le visage des vieillards, un visage sillonné de rides profondes qui témoignent des difficultés climatiques, des vents glaciaux qui soufflent sans arrêt. Et dans ces visages, un beau sourire et un regard profond, un regard lumineux, un regard bienveillant. Moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu beaucoup de beaux moments partagés à travers ces regards avec ces gens-là. Et puis, c'était les rires des enfants pleins de vie, pleins de joie. J'étais un peu très impressionnée par ce peuple très accueillant, où la vie semble, malgré la rigueur des conditions de vie, la vie semble douce et sereine. Voilà, puis après mon voyage m'a emmené à un autre point très fort, Bénarès. Bénarès, c'est la ville la plus sacrée de l'Inde, parce qu'en Inde, toutes les villes sont sacrées, tout est sacré. Et au bord du Gange, la rivière la plus sacrée. Alors le Gange, pour nous, ça ressemble à un grand fleuve pollué, parce que il a ramassé sur son passage des tonnes de détritus, poubelles, des cadavres, des plastiques. À Bénarès, on voit, c'est un spectacle un peu fascinant de voir des milliers de pèlerins qui arrivent chaque jour pour déposer leurs offrandes dans cette rivière sacrée. Ils s'y baignent, ils s'y purifient, ils la boivent, alors parfois ils en guérissent. Et puis il y a aussi les crémations à côté. On voit parfois des jeunes Indiens qui s'ébattent joyeusement dans l'eau du Gange, et à côté, une famille qui vient brûler le corps d'un parent. Et tout ça, voilà, ça, c'est la vie et la mort qui se côtoient. C'est naturel, la mort n'est pas un drame. La mort fait partie de la vie, c'est le prolongement de la vie. Tout se passe très simplement. Et puis après Bénarès, Calcutta, c'est une autre grande ville de l'Inde, qui, comme toutes les grandes villes, c'est un fourmillement, c'est une foule qui grouille dans les villes, dans les rues. Alors c'est les couleurs des saris, les couleurs des tapis, il y a des couleurs partout. Puis il y a toutes les races, il y a toutes les religions. C'est comme si tout le monde entier se retrouve ici, dans ces rues. Et puis il y a les odeurs des épices, des encens. Toutes les odeurs, il y a. Puis les bruits, alors le bruit, tous les bruits, les klaxons des voitures qui se faufilent à travers les piétons, les tuk-tuks, les haut-parleurs qui crient la musique à tue-tête, les sons des clochettes, qui sont. Sur les bracelets aux chevilles des femmes, les clochettes des vaches qui se promènent tranquillement dans la rue, les clochettes dans les temples. Voilà, c'est une grande cacophonie. Mais bon, c'est vivant, c'est vibrant, c'est vraiment. On pourrait passer, moi je pouvais passer des heures à admirer le spectacle, ce spectacle dans la rue où. En fait, chacun, dans cette disparité, en fait, chacun est lui-même. J'ai l'impression que les Indiens, ils sont eux-mêmes. Ils n'ont pas peur ils ne sont pas conformés à un modèle. Ils font ce qu'ils ont envie de faire et tout se passe bien. Personne ne se gêne. Tout est fluide. La vie s'écoule. Chacun accepte l'autre comme il est, chacun s'accepte soi-même. Ça m'a beaucoup marqué, cette acceptation de l'autre, cette acceptation de la vie, de ce qui est. Voilà, c'était ce premier voyage. Après, moi j'étais enseignante, donc j'avais les vacances d'été pour voyager. Donc après la deuxième année, l'année d'après, je suis repartie pour un autre voyage. Cette fois, je suis partie avec une amie. On a visité l'Inde du Sud avec tous ces temples couverts de sculptures de toutes les couleurs. Donc c'était encore plus de couleurs, encore plus de joie de vivre, encore plus voilà, de bienveillance en fait. En Inde du Sud, c'est encore plus d'hospitalité. Et puis, on est allé un peu à Sri Lanka aussi. Sri Lanka qui ressemble beaucoup à l'Inde, mais je me souviens qu'en revenant de Sri Lanka, Ceylan à l'époque, quand j'ai mis le pied en Inde, à Rameshwaram, j'ai eu l'impression, ici je suis chez moi. Et j'ai compris ce que les Indiens ressentent quand ils parlent de l'Inde comme Mother India, notre mère, c'est notre mère, j'ai ressenti ça. Voilà, et puis, le voyage c'est fini, et puis l'année d'après. J'ai pris une année sabbatique parce que j'avais besoin de plus de temps pour découvrir l'Inde. Et je suis repartie. Là, j'ai fait beaucoup de trekking dans les Himalayas, des marches dans ces paysages grandioses. Et aussi, on n'est jamais vraiment seul. On peut marcher pendant des heures, mais on fait toujours des rencontres. Il y a toujours quelqu'un, une petite maison, un petit temple, on est accueillis, on est hébergés, on nous donne à manger. C'est aussi ces rencontres à travers ces longues marches dans la montagne. Et puis voilà, puis j'ai fait un peu des stages dans un ashram à Rishikesh, j'ai découvert le yoga, j'ai appris un peu de yoga. Après, je suis allée à Bodh Gaya, l'endroit où le Bouddha a eu l'illumination. C'était une ville où il y a beaucoup de bouddhistes. J'ai appris un peu, j'ai fait un stage de vipassana, méditation bouddhiste. Voilà, donc mon voyage s'est continué. En fait, moi, j'avais pas vraiment la foi. Quand j'étais petite, j'avais la foi chrétienne que j'avais perdue quand j'avais 16 ans, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne résonnaient pas en moi. Et puis en plus, moi, je cherchais un petit peu à comprendre. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis, voilà, j'étais toujours en train de chercher parce que moi, je crois que quand on veut progresser spirituellement, on doit avoir un peu de persévérance et de discipline, ce que je n'avais pas du tout. Donc, mes progrès spirituels ont été très, très lents. Je faisais un petit peu de yoga, un peu de méditation, mais je n'arrivais pas à calmer mon mental, en fait. J'avais un mental très turbulent et j'avais du mal à être dans le présent. Donc voilà. Et puis à la fin de ce voyage, j'ai rencontré mon mari, enfin celui qui deviendrait mon mari. Puis il s'apprêtait à revenir en France, en fait, à prendre l'avion pour la France. Alors, je suis revenue en France. Et puis après j'étais enceinte et on s'est dit que ça serait bien de repartir en Inde pour faire une grossesse plus sereine en fait que peut-être en France. Donc j'ai repris une année sabbatique et on est reparti en Inde. Et en Inde c'était très une femme enceinte, c'est quelqu'un qui est vraiment très respecté, très chouchouté. Les femmes indiennes venaient caresser mon ventre. J'étais vraiment acceptée à cause de ça. Et puis, on avait très peu d'argent, en fait, parce que moi, c'était ma deuxième année sabbatique. Mon mari, ça doit être sa troisième. Et il avait rapporté quelques tissus que sa mère vendait, et que parfois, elle nous envoyait un petit peu d'argent. Mais on vivait, j'avais un sac à dos, une petite malle. On louait des petites maisons ou des huttes ici et là. On faisait la cuisine au feu de bois. On avait une casserole. Alors, on faisait cuire le riz, les lentilles, les légumes dans la même casserole. Après, on lavait la casserole, on faisait chauffer le thé. Et voilà, la vie était sereine, tout se passait bien. Et puis parfois, on n'avait plus d'argent. Alors moi, je paniquais un peu quand on n'avait plus d'argent, mais mon mari était très croyant. Il avait une très grande foi, il ne s'inquiétait jamais. Et je me souviens qu'une fois, on n'avait vraiment plus d'argent, mais rien. Et on devait aller à Bombay, sa mère devait nous envoyer un peu d'argent. Et quelqu'un nous a prêté l'argent pour faire le voyage en train. Et puis, mais on n'avait pas de quoi manger. On est arrivé près de Bombay, on est allé dans un ashram d'Hare Krishna. On pensait être hébergé nourri dans cet ashram. En fait, c'était très très cher. Et là, moi, j'avais pas mangé depuis longtemps. J'étais enceinte de quelques mois. Et j'ai éclaté en larmes parce que j'avais faim, quoi. Et là, il y a une dame qui est venue, qui ne m'a rien demandé et qui m'a donné un billet de 100 roupies. 100 roupies, avec ça, on pouvait vivre une semaine, deux semaines au moins. Et là, ça m'a un peu bouleversée. Elle m'a donné ce billet, puis elle est repartie comme ça. Et puis ça m'est arrivé plusieurs fois après, d'autres fois aussi, où on était sans rien. Et quelqu'un passait, nous donnait à manger, nous donnait un peu d'argent et repartait. Et maintenant, quand j'y pense, je disais, mais c'était des anges, en fait, qui passaient. Et ben là, j'ai commencé à voir, j'ai senti ma foi, quoi, la foi qui revenait. J'ai senti que, en fait, l'univers est bienveillant, l'univers prend soin de nous. Mais pour ça, il faut faire confiance. Je crois que la grâce divine est toujours là. Si on fait confiance, si on ne bloque pas le flux, le flow par nos peurs. C'est ça vraiment, c'était un enseignement très profond, c'est que l'univers est bienveillant. C'est juste à s'ouvrir, à être réceptif à cette bienveillance. C'est qu'en fait, il a toujours pris soin de nous et tout s'est bien passé. Donc, on a sillonné l'Inde à la recherche d'un endroit idéal pour la naissance du bébé. Et puis, mon mari avait un père d'origine africaine, donc il avait un père musulman, une mère chrétienne. Et lui, il était vraiment. Il admirait Ramakrishna, c'était un mystique du 19e siècle. Ramakrishna. Lui, né hindou, il avait une très profonde dévotion pour Kali, hein, une déesse hindoue. Et il a fait une expérience de fusion avec Kali, donc c'était une extase. Et après, il a une dévotion pour Krishna, pour d'autres dieux. Et chaque fois, il réalisait... la fusion avec l'objet de sa dévotion. Il a même eu un gourou chrétien, il a fait l'expérience de fusion avec Jésus-Christ. Il a eu un gourou musulman, il a fait l'expérience de fusion avec le prophète. Et c'était vraiment des extases au niveau physique. Il pouvait perdre conscience pendant des jours, au niveau, à tous les niveaux, au niveau... mental, au niveau de l'âme, c'était... mon mari avait cette profonde admiration pour Ramakrishna, donc on a aussi visité des lieux saints dédiés à son souvenir. Et à travers tout ça aussi, j'ai recommencé à avoir un peu une foi, à comprendre qu'en fait, Sri Ramakrishna enseignait que en fait, le divin est sans forme, mais le divin peut prendre toutes les formes. Et quel que soit l'objet de notre dévotion, hein, ça c'est pas important, c'est que l'objet de notre dévotion mène à la même réalisation, la réalisation du divin qui est sans forme, qui est pure conscience. Et ça pour moi ça résonnait vraiment en moi et j'ai recommencé un peu à retrouver la foi. Grâce à ça, à ces enseignements. Voilà, et puis on a trouvé l'endroit de naissance pour le bébé à Goa, dans une petite maison au bord de la mer, face à la mer. C'était tout simple, j'avais juste mon tapis de yoga. Et puis voilà, le bébé est né ici dans cette petite maison. C'était très, 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 très belle naissance. Et puis voilà, et puis après, on n'avait plus d'argent, donc avec un bébé, on a pensé que c'était mieux de revenir en France. Et puis j'ai recommencé à travailler, et puis, mais on repensait toujours quand même à l'Inde. Et puis après 9 ans, on a eu l'occasion de repartir vivre en Inde. En fait, un jour à la radio, on a entendu dire que... quand on a plus que 3 enfants... entre-temps, j'avais déjà eu 4 autres enfants, donc on avait 5. on a entendu dire à la radio que quand on avait plus que 3 enfants, un des parents pouvait prendre la retraite. Le lendemain, je suis allée demander ma retraite. Et voilà, j'ai pris ma retraite et on est parti en Inde, avec toute la famille, on est parti revivre en Inde. On est resté après. On a beaucoup sillonné l'Inde pour chercher un endroit aussi. On a vécu à Goa, au bord de la mer. Et puis après, On avait beaucoup de problèmes pour avoir un visa. Donc, ils nous disaient, si vous voulez un visa, il faut mettre les enfants à l'école. Alors après 5 ans, on a décidé de mettre les enfants à l'école. On est allé vivre à Kodaikanal, dans les montagnes du Tamil Nadu, où il y avait une école pour les enfants, voilà. Et puis, moi, je débattais toujours avec mon mental, que je n'arrivais pas tellement à calmer. Même si je retrouvais un peu la foi, j'avais du mal à trouver la paix, la sérénité quand même intérieure. Et alors, en 2000, donc 20 ans après ma première découverte de l'Inde, ben, j'ai découvert le Reiki. Le Reiki, ça n'a rien d'indien, c'est une technique qui a été redécouverte par un moine japonais, mais enfin c'était un moine bouddhiste, et c'est une technique de soins énergétiques en fait, où on canalise l'énergie cosmique, et on la transmet par les mains, donc pour soi-même ou pour quelqu'un, et ce qui induit une profonde relaxation. Et cette relaxation permet la guérison, hein, guérison au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Et ben, cette pratique me plaisait beaucoup. J'ai été très disciplinée cette fois. Je pratiquais beaucoup sur moi et doucement, ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure. J'ai commencé à pouvoir vraiment méditer, à pouvoir calmer mon mental, et voilà. Donc j'ai passé très vite tous les niveaux et j'ai commencé à enseigner le Reiki, et voilà, ça m'a apporté, j'ai eu très belles expériences aussi en pratiquant le Reiki. Je sentais parfois, je me sentais dans les bras du divin, je ressentais cette énergie divine autour de moi. C'était vraiment une très belle expérience pour moi, c'est une méditation Reiki. Après, j'ai passé mon diplôme pour être professeur de yoga aussi. Et là, j'ai appris un peu, notre professeur nous enseignait un peu le Vedanta. Le Vedanta en Inde, c'est une philosophie qui prêche la non-dualité, c'est-à-dire il n'y a pas d'âme individuelle en fait, tout est Dieu, tout est le divin est en tout. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas... Ça aussi, ça résonnait beaucoup en moi, cette philosophie du divin en tout. Et en fait, que le divin, c'est la pure conscience. Et après, j'ai rencontré Amma. Amma, c'est la sainte qui embrasse, elle passe son temps à embrasser les gens. J'ai rencontré Amma, en fait je suis allée dans son ashram pour, pas pour elle, mais pour voir un ami, et en fait je devais rester 3 jours, et puis elle a organisé un cours de Reiki pour moi, et il y avait 16 personnes intéressées, donc j'ai dû rester 15 jours dans son ashram. Et après, juste avant de partir le soir, après mon cours de Reiki, j'avais reçu il m'avait embrassé 2 fois, je n'avais pas vraiment ressenti. Puis là, je la regardais sur le plateau, elle embrassait les gens, je trouvais ça très beau. Et puis là, j'ai une de mes étudiantes qui vient vers moi, qui me dit, mais tu pars demain, est-ce que tu as été dire au revoir à Amma? Et je lui disais, non, moi Amma, j'ai déjà vu embrasser 2 fois, ça suffit. Regarde, elle a l'air fatiguée, elle était 11 heures du soir. C'est pas la peine. Elle me disait, si, tu dois aller lui dire au revoir, il faut que tu y ailles. Bon, alors j'y vais, j'arrive au bord du plateau, et puis là on me dit, le darshan est fini. Je dis, ça fait rien. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans ses bras. Alors là, je sais pas comment, j'étais dans ses bras. Elle m'a gardée longtemps. J'étais la dernière en fait. Et là, elle m'a donné un peu l'expérience de pure conscience. J'avais juste la conscience, je suis. Conscience d'exister, mais plus la conscience du corps, plus la conscience de ce qu'il y a autour. C'était juste, je suis, j'existe, et un état un état de félicité, de béatitude. Voilà, c'était éphémère, mais c'était pour moi une très belle réalisation, cette expérience. Bon, après, je suis un peu devenue une femme d'ama, quoi. Elle m'avait conquis, là. Et voilà, et puis, ben voilà, c'était un peu mes impressions très plus marquantes de l'Inde. Et puis mon chemin spirituel. Voilà, maintenant, ma pratique spirituelle, c'est un peu d'essayer de revenir à cette pure conscience en étant le plus possible dans le moment présent. Je pense que c'est en étant dans le moment présent qu'on peut arriver à cet état de réalisation de qui je suis, qui habite ce corps. En fait, je ne suis pas ce corps, je suis conscience, je suis félicité, je suis. Voilà, et voilà, c'est tout. Merci.
Merci Jacqueline pour ta belle présence, ton témoignage. Ça me touche beaucoup. À 20 ans, je suis partie un mois et demi en Inde. Ça me fait bien de réentendre et de ressentir toutes ces odeurs, ces couleurs qui sont là au fond. Je ne suis pas restée longtemps, mais super. Alors, je ne sais pas si on a pas beaucoup de temps, mais s'il y a une question, s'il y a envie de...
Moi, je veux juste rebondir sur un truc très intéressant, c'est que tu as été en Inde, mais bientôt, l'Inde va venir à nous. C'est-à-dire que je suis en contact avec une chanteuse exceptionnelle, justement, qui habite à Jaipur, qui fait du chant traditionnel indien, hein, du magnifique. Elle va venir en courant 2022, on ne sait pas si c'est au printemps ou pendant l'été. Je vais essayer de faire un spectacle avec elle, donc si vous voulez que je la fasse venir. Honnêtement, elle est divine. elle est toute jeune, elle est super jolie, elle est angélique, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'elle aurait toute sa place dans ce genre de réunion. Quoi, en fait. Bon, on en reparlera en temps voulu, parce que bon, on est en train d'écrire un certain nombre de choses. Avec elle, mais ce sera une, je pense, une très bonne expérience.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Jacqueline avant qu'on fasse les petits cercles?
Ouais, juste un petit retour sur ton voyage qui m'a beaucoup touché, parce que je me suis retrouvé vraiment dans ton parcours. Et curieusement, j'ai fait le même parcours que toi, géographiquement, hein, avec pas forcément les mêmes états et pas forcément les mêmes histoires, hein, mais il y a longtemps que je n'avais pas entendu parler de l'Inde avec ce vécu comme ça, quoi. Et donc c'était très touchant et je me suis retrouvé vraiment. Moi, j'ai passé un an et demi, quand j'avais 20 ans, je suis parti au sac à dos, un peu comme toi. Enfin, bon, voilà, quoi. Et j'ai retrouvé cette ambiance-là.
Merci.
Je me suis perdu en Inde. J'étais malade et tout. Et au bout de 3 semaines, j'étais chez moi. Vraiment. Parce que j'étais perdu. Tu vois, je me suis perdu là-bas, sans repère. Et finalement, j'étais chez moi. Tu vois, d'avoir lâché tout. Oh, j'étais partout chez moi, en fait. Hein, j'ai ressenti ça dans ce qui t'est arrivé, dans le fait qu'au bout d'un moment t'as plus rien et tu laisses les choses te venir et finalement elles sont nourrissantes, quoi, tu vois. Et j'ai ressenti ça dans ton propos, quoi.
D'accord, merci. Et, voilà.
Voilà.
Une question.
J'ai plein de questions à poser, mais c'est tellement beau et bouleversant ce récit de vie, que quand on a ce regard un peu ambivalent sur l'Inde, et de d'écouter des témoignages comme le vôtre. Et en fait, ça bouscule complètement en fait ce qu'on a comme vision très terre à terre de ce que c'est ce pays, et d'entendre en fait votre témoignage et le témoignage de personnes qui reviennent d'Inde complètement métamorphosées, apaisées. C'est qu'il y a vraiment une énergie qui est unique, et effectivement ça donne envie de dépasser ses peurs et ses préjugés pour y aller.
J'espère que ça va vous donner envie d'y aller. Vanessa aussi.
Oui. Moi, j'ai eu cette expérience aussi. C'est vrai que c'est touchant de t'entendre parler. Ça fait, ça fait voyager. Moi, je me suis un peu remémoré mon voyage. Ouais. C'est vrai que c'est un voyage très fort. Enfin, ça chamboule énormément, c'est clair.
Ça bouscule.
Les frontières ont réouvert apparemment, donc c'est bon, on peut aller en Inde.
Oui, ils ont réouvert. On n'a pas besoin il faut le pass sanitaire, mais on n'a pas besoin forcément d'être vacciné. On peut aller juste avec un test, en fait. Il n'y a même pas de quarantaine. Donc, ils viennent de tout.
Non, on peut.
Et bon, il faut le visa. On peut avoir le visa de touriste maintenant en ligne. Ça prend quelques jours.
Passe le test, quoi.
Il faut le test. Oui.
Et tu es revenue vivre en France ?
Alors moi, je suis en exil. Parce que je suis sortie en mars 2020. Je suis sortie pour renouveler mon visa en Thaïlande. Je suis partie avec une petite valise pour 5 jours. Et puis l'Inde a fermé ses frontières. Alors, je n'ai pas pu retourner en Inde. Alors, moi, j'ai tout là-bas. Et j'ai passé 4 mois en Thaïlande, enfin, à Koh Tao. Hein. C'était une petite île paradisiaque, ça allait. Et puis après, je me suis dit, ils ne vont pas rouvrir tout de suite. Alors, je vais en France. J'ai un petit-fils à Montpellier. Donc, je suis chez mon fils en ce moment. Et là, l'Inde vient de rouvrir. Mais en fait, je me plais beaucoup ici. Grâce aussi à la Biodanza, j'ai trouvé une petite communauté très sympathique. Puis je commence à avoir des amis ici. Et puis je me dis, est-ce que je retourne ? Bon, j'irai certainement chercher mes affaires. Hein. Enfin, ma voiture a été cassée par un éléphant. Alors, vraiment écrasée par un éléphant. Enfin, il l'a jeté en l'air. Donc, déjà, j'ai pas m'inquiéter pour la voiture. Au moins, il est débarrassé de peut-être ma tablette, mon ordi. Et puis, maintenant, je pense peut-être rester ici, je ne sais pas.
Et tes enfants, ils ont cet engouement, comme toi, pour l'Inde? Ils sont restés là-bas ou alors ils sont ici?
Il y en a deux qui sont encore en Inde, qui adorent l'Inde. J'ai un fils qui est en France, là, qui aime la France, en fait. Il aime la France. Et j'ai un fils qui est en Thaïlande, qui aime beaucoup la Thaïlande. C'est-à-dire, il est parti de la France, il avait 6 mois. Donc il se souvient pas vraiment de la France, mais je pense qu'il a un peu une appréhension à venir en France parce que.
Ah bon? Pourquoi?
Et j'ai une fille qui est en Italie, qui adore l'Inde, mais bon, qui est mariée avec un Italien, qui a des enfants et qui est un peu obligée de vivre en Italie maintenant, mais qui aimerait bien revenir.